France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction. Avec vous, Thomas Cluzel, rebonjour.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Une escalade dangereuse, c'est par ces mots que le Qatar, principal médiateur entre Israël et le Hamas, condamne ce matin les dernières frappes de l'État hébreu sur Gaza, chacun des deux camps s'accusant mutuellement de violer la trêve. On se rendra en Russie après que l'Ukraine a reçu hier une nouvelle proposition de paix de la part des États-Unis. L'actualité en France, et notamment la lutte contre le narco-banditisme, nous serons à Marseille, à l'occasion de la visite des ministres de l'Intérieur et de la Justice. À suivre par ailleurs la Journée internationale des droits de l'enfant. On en parlera avec notre invité. Et puis la fin d'un vrai faux suspense, sans éditeur ni auteur. Le maire d'Angoulême invite ce matin l'organisateur du festival de bande dessinée à en tirer les conclusions. L'objectif est maintenant, dit-il, de se mettre en ordre de marche afin d'organiser une édition 2027. L'avènement d'une paix perpétuelle, c'est par ces mots que l'intempérant président américain Donald Trump avait qualifié l'accord de cessez-le-feu arraché au Hamas et à Israël. En attendant, les Palestiniens se demandent eux s'il y a encore un espoir pour la vie à Gaza. Les bombardements et les morts ont recommencé dans l'enclave dévastée par plus de 2 années d'hostilité déclenchée par l'attaque sanglante du 7 octobre. Encore 3 nouveaux morts ce matin. Hier déjà, des frappes ont tué 27 personnes, soit l'une des journées les plus meurtrières après l'entrée en vigueur de la trêve. Lucas Lazo, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant à Ramallah en Cisjordanie, au total, depuis le 10 octobre, Lucas, ce sont plus de 300 Palestiniens qui ont perdu la vie dans des raids de l'État hébreu.
Oui, tout à fait. Pour les habitants de Gaza avec qui j'ai pu discuter au téléphone ces derniers jours, les espoirs suscités mi-octobre par l'accord de cessez-le-feu se sont envolés. L'écho des bombardements résonne quotidiennement sur le territoire palestinien, en prise par ailleurs depuis plusieurs jours avec d'importantes inondations. Hier encore, vous le disiez, l'armée israélienne a tué une trentaine de personnes, dont plusieurs enfants, au cours d'attaques justifiées, selon elle, par des représailles à des tirs qu'elle aurait essuyés de la part de combattants du Hamas. Des accusations réfutées par le mouvement palestinien. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ces dernières semaines, plusieurs victimes ont été recensées aux abords de la ligne jaune. Cette ligne jaune derrière laquelle s'est repliée l'armée israélienne et qui coupe désormais la bande de Gaza en deux. Une ligne dont le franchissement est strictement interdit par l'armée, mais dont le tracé reste flou. Selon plusieurs sources locales, l'armée aurait même commencé ce matin à en étendre la délimitation, réduisant encore un peu plus l'espace dans lequel tentent de survivre les civils. 3 jours après l'adoption lundi par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution censée faire avancer la deuxième phase du plan de paix, les Gazaouis s'inquiètent toujours de l'absence de garanties concrètes concernant leur sécurité.
Merci Lucas Lazo, en direct de Ramallah en Cisjordanie.
En Ukraine, là-bas aussi, le fracas des armes ne connaît aucun répit.
Hier, l'armée du Kremlin a lancé l'une de ses offensives les plus dévastatrices de l'année. Et c'est dans ce contexte que Washington a donc envoyé à Kiev un nouveau cadre de paix en 28 points. Cette proposition inclut la reconnaissance de la Crimée annexée, ainsi que d'autres régions occupées par l'envahisseur, la réduction de moitié de son armée, et enfin que l'Ukraine renonce également à intégrer l'OTAN, soit peu ou prou l'ensemble des conditions maximalistes avancées jusque-là par Moscou, des exigences dénoncées par Kiev comme équivalent à une capitulation. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou. Alors c'est un média américain, en l'occurrence Axios, qui affirme que Washington et Moscou travailleraient en secret donc sur un plan pour mettre fin à la guerre. Une information que le Kremlin se refuse pour l'instant de commenter. Pour quelle raison, Sylvain ?
Oui, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit tout à l'heure, en gros, qu'il n'avait rien à dire sur ce plan, qu'aucune négociation n'était en cours à sa connaissance et que la position russe restait celle d'Anchorage, quand Vladimir Poutine avait rencontré Donald Trump en Alaska et n'avait absolument rien cédé. En fait, Moscou fait comme si elle n'était au courant de rien. Après tout, ce n'est pas la diplomatie russe qui était impliquée dans les discussions avec les Américains récemment, mais Kirill Dmitriev. Officiellement, c'est un homme d'affaires, PDG du fonds souverain russe, c'est l'envoyé spécial de Vladimir Poutine pour les investissements, mais il a pris de l'importance ces derniers mois. Il a un accès direct au président et Dmitriev passe outre les circuits habituels. C'est lui qui a discuté ce fameux plan en 28 points, c'est lui qui l'a fait fuiter dans la presse américaine et on ne peut pas imaginer qu'il l'ait fait sans l'assentiment du Kremlin. La réalité, c'est que tout cela remet la pression sur Kiev et la question, c'est la Maison-Blanche est-elle encore en train de changer d'avis alors qu'elle vient de prendre des sanctions réelles sur le pétrole russe, qu'elle vient d'autoriser les frappes sur le territoire russe avec ses missiles. Elle envoie un signal totalement contraire en validant ce plan totalement à l'avantage de Moscou.
Merci Sylvain Tronchet à Moscou. Alors on a bien compris que cet hypothétique plan de paix avancé par les États-Unis constituerait un revers cinglant pour l'Ukraine. La paix ne doit pas passer par une capitulation de Kiev face à Moscou, a martelé ce matin le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. De son côté, la chef de la diplomatie de l'UE a tenu à rappeler que la paix ne pouvait se faire qu'avec les Ukrainiens et les Européens. Il n'en reste pas moins que le président Volodymyr Zelensky, lequel doit d'ailleurs rencontrer aujourd'hui à Kiev le secrétaire de l'armée américaine, se trouve aujourd'hui fragilisé, non seulement sur le champ de bataille avec la progression à l'est des forces russes, mais aussi chez lui, aux prises avec un scandale de corruption qui a vu le Parlement formellement destituer hier deux ministres. Et ça n'est peut-être pas terminé, puisque c'est aujourd'hui qui devrait être scellé le sort de son chef de cabinet en personne, mêlé lui aussi a priori à un vaste système de pots de vin. Les explications de Valérie Crovin.
Il est l'homme de l'ombre de Volodymyr Zelensky. Des rumeurs circulent sur le limogeage d'André Yermak qui pourrait être annoncé aujourd'hui. Il serait remplacé par l'ancienne ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis avec laquelle le président Zelensky a eu récemment un entretien. S'il accepte de se séparer de son éminence grise, c'est parce qu'au sein de son parti, serviteur du peuple, de nombreux députés réclament la tête de Yermak. Dans le cas contraire, il menace de quitter la formation qui risquerait par ricochet de perdre sa majorité à la Rada, le Parlement ukrainien. La chute de ce pilier de l'administration ukrainienne serait un nouveau coup dur pour Volodymyr Zelensky, dont un autre collaborateur est visé par l'enquête du parquet anticorruption qui s'est étalée sur 15 mois. Présenté comme le cerveau de ce vaste système de pots de vin, Timur Mendish a quitté l'Ukraine en début de semaine, quelques heures avant l'annonce de son inculpation.
Midi passé de 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Une purge massive, voilà ce que craignent aujourd'hui les collectivités locales françaises vent debout contre la mise à contribution de 4,7 milliards annoncée pour l'an prochain. Autant dire que la première tâche du Premier ministre attendue cet après-midi au Congrès des maires sera donc de rassurer et pourquoi pas même de lâcher du lest. À 4 mois des élections municipales, Sébastien Lecornu, lequel a d'ores et déjà fait un geste en faveur des régions et des départements, pourra-t-il aussi desserrer l'étau final financiers sur les communes, quels seront par ailleurs les contours du nouvel acte de décentralisation qu'il appelle de ses voeux.
Et puis le chef du gouvernement devra également s'attacher à répondre à l'une des principales préoccupations à présent des élus locaux, la sécurité.
Oui, de plus en plus souvent, les édiles, des grandes comme des petites communes, témoignent de situations qui débordent à la fois leurs compétences et leurs moyens. L'insécurité liée au trafic de drogue, beaucoup ça vous démunit face à ce fléau qui touche aujourd'hui près de 8 communes sur 10. À ce titre, d'ailleurs, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont arrivés à Marseille aujourd'hui pour mieux afficher leur combat contre le narco-banditisme. Laurent Nunez et Gérald Darmanin qui échangeront tout à l'heure avec la famille de Mehdi, 20 ans, tué par balle en plein jour, c'était jeudi dernier, probablement assassiné car connu comme le frère d'Amine, un militant écologiste engagé contre le trafic de drogue, lequel a d'ailleurs appelé ce matin à se mobiliser partout samedi prochain et faire une minute de silence devant les mairies, justement. Mathilde Vinceneux, bonjour.
Bonjour.
En direct de Marseille, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux ont commencé leur visite ce matin par la prison des Baumettes, puis le palais de justice avant une réunion de travail. En ce moment même, Mathilde, à la préfecture, réunion sur la criminalité organisée.
Oui, les deux ministres viennent de se rejoindre à la préfecture pour cette réunion de travail sur la criminalité organisée. Et vous le disiez, ce matin, Gérald Darmanin s'est déjà rendu à la prison des Baumettes, prison où, rappelons-le, la directrice et l'un de ses adjoints ont dû quitter leur poste il y a un an, menacés de mort par un détenu lié à la DZ Mafia. Le garde des Sceaux a fait un point sur la situation carcérale dans le département, alors qu'un quartier de haute sécurité pour les narcotrafiquants doit ouvrir dans quelques mois à la prison d'Aix-Luynes. Il s'est ensuite rendu au palais de justice auprès des magistrats spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée, magistrats qui ont déjà fait part de leur crainte de perdre la guerre contre les narcotrafiquants. Les deux ministres doivent ensuite rencontrer en début d'après-midi la famille de Mehdi Kessassi, ce jeune homme de 20 ans abattu il y a une semaine à Marseille, qui rêvait d'être policier, assassiné pour rien, a répété son grand frère, le militant Amine Kessassi.
Les Marseillais, on l'imagine, attendent du concret. Est-ce que de nouvelles annonces sont attendues aujourd'hui, Mathilde ?
Eh bien, une première prise de parole des deux ministres est prévue dans un peu moins d'une heure à l'issue de leur réunion avec les autorités judiciaires et policières. Que peuvent-ils annoncer alors qu'une loi pour renforcer la lutte contre le narcotrafic a déjà été adoptée, qu'un parquet anti-criminalité organisée verra le jour en janvier prochain? Le maire de Marseille, Benoît Payan, réclame lui davantage de moyens, de magistrats, de policiers dans sa ville. Rappelons que s'il y a eu des renforts policiers à Marseille ces dernières années, ces renforts n'ont pas permis de compenser les départs, disait la Cour des comptes. Il y a donc moins de policiers aujourd'hui à Marseille qu'au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Merci Mathilde Vinceneux à Marseille avec Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. Même si elle peut avoir tendance à changer de visage, c'est uniquement parce que de plus en plus de personnes en réalité sont désormais affectées par elle. La pauvreté, dans son rapport annuel publié ce matin, le Secours catholique observe un changement de typologie depuis 30 ans. La pauvreté est aujourd'hui davantage liée à des problèmes de santé, de handicap ou de nationalité étrangère. Enfin, sur l'ensemble des personnes accompagnées par l'association, plus d'un million par an, généralement sans ressources et souvent en situation d'errance. Les femmes sont légèrement majoritaires.
Et que dire à présent du sans-abrisme des enfants?
À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, plusieurs collectifs pour le droit au logement appellent à une manifestation cet après-midi à Lyon. Parallèlement, enseignants et travailleurs sociaux du Rhône sont eux appelés à faire grève aujourd'hui. Chaque soir, dans la métropole, ce sont quelques 20 écoles qui accueillent des familles sans toit en relais d'un système d'hébergement d'urgence saturé. C'est un reportage signé Mathilde Imberti.
Sa petite dernière avait un mois quand Fatima s'est retrouvée à la rue avec trois enfants.
Malgré que je travaille, je peux même louer un petit truc, mais ça avance pas. Je suis sur la liste d'attente d'urgence depuis 6 ans. Ils sont fatigués. Passer la journée parfois à la rue, toute la journée, ça c'est compliqué.
C'est l'école ou c'est la rue, résume Julia Culcien, mère d'élèves solidaires, école Gardeau.
Les maîtresses nous ont alertés en disant qu'il y avait une famille avec un bébé d'un mois qui était à la rue. Et ça nous a vraiment pris au cœur. Une ni deux, on a trouvé les matelas, des couvertures, mais on pensait pas que ça allait durer autant, quoi.
Des occupations qui durent, déplore Juliette Murtin, collectif Jamais Sans Toit et enseignante.
Alors actuellement, sur la métropole de Lyon, le collectif Jamais Sans Toit recense 275 enfants à la rue. Il y a 20 établissements scolaires qui sont occupés tous les soirs. De toute façon, nous, on prend pas en compte la situation administrative des personnes. On suit la loi, en vérité. La loi, elle est très claire sur la question. C'est la situation de détresse des familles qui doit être prise en compte pour les mettre à l'abri.
Ils manifesteront cet après-midi pour plus de places d'hébergement. La préfecture dit qu'elle en gère déjà 27 000 dans le Rhône, plus du double comparé à il y a 10 ans, que c'est toute la chaîne qui est grippée de l'urgence à l'accès aux logements sociaux.
Un reportage à Lyon signé Mathilde Imberti pour continuer d'évoquer cette journée internationale des droits de l'enfant. Invitée à présent de la rédaction, Claire Bourdi, fondatrice du collectif Enfantiste. Bonjour madame.
Bonjour.
Comme chaque année, donc ce 20 novembre, date de la journée internationale des droits de l'enfant, est l'occasion de dresser divers états des lieux sur la situation du respect de ces droits, donc en France, mais aussi d'ailleurs dans le monde. C'est ainsi, par exemple, qu'hier, la défenseure des droits Claire Hédon dénonçait les failles dans la prise en charge des mineurs par la justice. Ce matin, la Fondation Action Enfance publie un baromètre selon lequel 6 à 7 millions de Français affirment avoir subi des violences pendant leur enfance. De votre côté, je le disais, vous avez fondé, donc c'était en 2022, le collectif Enfantiste, qui défend cette idée justement que les différentes violences que peuvent subir les enfants ne doivent pas être prises séparément, mais bien comme les différentes manifestations, en somme, d'une discrimination systémique liée au statut même des enfants dans notre société. C'est bien cela?
Oui, c'est bien cela. On le voit, les chiffres sont absolument scandaleux. Dans toutes les violences faites aux enfants, il y a 7,4 millions de Françaises et de Français qui se disent victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Et ces chiffres-là, il faut pouvoir les expliquer, il faut pouvoir faire des liens entre toutes les formes de violences, puisque les chiffres sont là. Et ça s'explique en fait par le fait qu'un enfant est considéré aujourd'hui appartenir à la famille. Ça fait partie de la sphère du privé, un peu comme les femmes il y a 50 ans en arrière. Et ces enfants-là, ils ne sont pas sortis de cette sphère de la famille, de cette possession. Les enfants, ce sont nos enfants. On fait ce qu'on veut dans la famille et personne ne vient vraiment se mêler de ce qui s'y passe parce que la majorité des violences ont lieu dans la famille. Mais on le voit d'ailleurs avec les affaires Bétaram ou Joël Le Skouarnec, elles ont aussi lieu dans les institutions. Ça, c'est un non-dit aussi qui a été pendant longtemps caché. Aujourd'hui, on commence à voir que les enfants sont victimes dans toutes les sphères de la société. Et pour nous, ça s'explique par une discrimination systémique des enfants qui n'a jamais été pensée jusqu'à maintenant en France, mais dans d'autres pays, oui.
Vous évoquiez à l'instant les affaires Betaram, le Squarneck. Certains observateurs jugent que ces deux affaires ont mis la lumière sur les violences faites aux enfants. Il se trouve que samedi dernier, une quarantaine de manifestations avaient lieu dans toute la France à l'initiative donc de votre collectif, mais aussi à l'appel de 77 associations pour réclamer davantage de mobilisation politique. Vous avez observé, je crois, que les cortèges étaient plus fournis que les années précédentes. Est-ce que vous observez une sensibilité accrue aujourd'hui à ces questions dans la société française?
Oui, tout à fait. Cette année, on était 10 000 dans toute la France et jusqu'en Belgique à manifester contre la violence faite aux enfants. L'année dernière, nous étions 1 000. Donc c'est un vrai message fort de la société qui est en train de se mobiliser et de dire stop à ces violences, parce qu'il faut que la société civile se mobilise pour pousser le gouvernement et les élus à agir et à créer de véritables politiques publiques. Et ça, c'est important, et c'est l'objectif de la création de ce collectif enfantiste, c'est de sensibiliser la société, d'apporter en fait la réalité de ce qui se passe, donc les chiffres, comment les enfants ne sont pas écoutés, pas protégés. Et puis derrière, une fois qu'on a mobilisé cette société, c'est pousser le gouvernement, notamment aux prochaines élections présidentielles, à agir, à avoir des programmes et pas du goutte à goutte. Alors, il faut vraiment un vrai programme.
Justement, hier, pas plus tard qu'hier, une proposition de loi a été déposée au Sénat pour rendre imprescriptibles les viols sur mineurs. Une loi cadre sur les violences sexuelles est également attendue au Parlement. Est-ce que c'est le signe que, petit à petit, malgré tout, le mouvement social de défense des droits de l'enfant pour lequel vous luttez arrive à se traduire donc dans la sphère politique?
Doucement, on arrive à faire passer certaines choses, mais les PPL, elles sont proposées, elles ne sont pas signées. Ça donne souvent pas grand-chose, et donc on donne PPL, on propose PPL sur PPL, notamment sur l'imprescriptibilité. C'est pas la première PPL. L'année dernière, on a déjà eu des débats politiques sur le sujet, et les discours ne correspondaient pas à la réalité du terrain. Nous, on reçoit énormément de témoignages de personnes victimes, et si c'est vrai qu'on salue le fait qu'il y ait de plus en plus d'élus qui s'engagent dans ce sujet que sont les violences faites aux enfants, ça peine encore vraiment à avoir une réelle volonté. Et puis il faut aussi que ça vienne du dessus. Il faut aussi que le gouvernement porte cette volonté politique plus fortement. Parce qu'on a vu ces derniers temps, et notamment avec le discours de l'ancien Premier ministre François Bayrou à l'Assemblée nationale, sur les violences faites aux enfants, il y a un problème, je pense, de connaissance de la situation et aussi de formation même du gouvernement et des élus.
C'est bien noté. Merci Claire Bourdy, fondatrice donc du collectif Enfantis, d'avoir répondu à notre invitation. Cite donc votre dernier ouvrage publié cette année aux éditions La Mer Salée, Enfantisme. Il est temps de respecter les enfants. Merci à vous et merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Les financeurs publics ont fini par demander à renoncer à la prochaine édition du Festival d'Angoulême.
Oui, déclaration ce matin du maire de la ville, Xavier Bonnefond. Chloé Martin, bonjour.
Bonjour.
Voilà qui vient confirmer ce que l'on pressentait, à savoir quand l'absence des auteurs comme des éditeurs, le maintien de l'édition 2026 s'annonçait évidemment compliqué.
Et oui, les collectivités locales et l'État mettent les organisateurs, à savoir l'association du FIBD et la société 9 mai Art Plus, au pied du mur. Ce sont eux qui financent à hauteur de 50% le festival. Xavier Bonnefond, le maire d'Angoulême, dresse un implacable constat.
Pas de festival sans auteurice. Pas de festival sans éditrice et sans éditeur. Ce sont donc les auteuristes qui, avec leur maison d'édition, font le festival. Sans eux et sans festivaliers, pas de festival. Et sans festival, pas de subvention publique.
Donc on demande juste aux organisateurs, ceux qui ont encore les clés sur le plan juridique pour l'édition 2026, prennent acte de la situation et prennent une décision.
Ces subventions publiques, elles ont déjà été votées en conseil municipal, en conseil d'agglomération, en conseil départemental et en conseil régional. La région Nouvelle-Aquitaine est d'ailleurs le principal financeur public du festival, mais son président Alain Rousset prévient, si le payeur ne voit pas le service fait, il ne paye pas. Alors s'il est trop tard pour sauver l'édition 2026, tous veulent en tout cas sauver le festival. Le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond.
L'objectif est clairement maintenant de se mettre en ordre de marche et d'organiser les temps de concertation
nécessaire avec l'ensemble des acteurs de la filière. Il faut que l'édition 2027 ait lieu. Il faut que l'édition 2027 soit la fête du renouveau. Et donc, ça doit passer par un nouveau souffle, un renouvellement, et ça doit passer par, évidemment, le choix d'un nouvel opérateur.
Et les pouvoirs publics espèrent ainsi dessiner une nouvelle page dans l'histoire de la bande dessinée.
Merci Chloé Martin. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué le plus souvent par une alternance de nuages et d'éclaircies. En revanche, du Grand Est à la Franche-Comté, les giboulées de neige pourront blanchir le sol au-dessus de 400 mètres. Quant aux températures, elles seront comprises entre 5 et 9 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Fabien Etchecopard. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.